Les présidents de la Russie, de la Turquie et de l'Iran vont se réunir le 19 juillet à Téhéran pour un sommet sur la Syrie. Les forces d'occupation américaines ont fait entrer un convoi composé de 43 véhicules chargés d'équipements et de matériel logistique dans la région syrienne de Jazira. Et le président togolais et son homologue Bissau-Guinéen ont exprimé de vives préoccupations face à la recrudescence du terrorisme en Afrique de l'Ouest. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Les présidents russes et turcs se rendront en Iran. Le président russe, Vladimir Poutine, prévoit de se rendre à Téhéran pour assister au pourparlers de paix d'Astana sur la Syrie avec ses homologues turcs et iraniens, a indiqué le Kremlin. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré mardi 12 juillet que Poutine s'entretiendra avec le président iranien Ebrahim Raisi et le président turc Recep Tayyip Erdogan le 19 juillet. La visite du dirigeant russe à Téhéran sera son deuxième voyage à l'étranger depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par Moscou le 24 février. L'Iran et la Russie, en tant qu'alliés du gouvernement syrien, ainsi que la Turquie, qui se range du côté de l'opposition, ont mis en place le processus de paix d'Astana en janvier 2017 dans l'intention de mettre fin au conflit syrien grâce à l'implication du gouvernement syrien et de l'opposition. Les trois pays ont jusqu'à présent tenu 18 séries de pourparlers, initialement dans la capitale kazakh, Astana. Le dernier sommet tripartite s'est tenu à Nur-Sultan à la mi-juin. Les participants au 18e sommet international sur la Syrie, au format Astana, ont réaffirmé leur ferme attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Syrie et annoncé leur ferme opposition à l'agression et aux atrocités israéliennes dans ce pays déchiré par la guerre. Le président de la Commission économique du Parlement iranien, Mohammad Rezapour Ebrahimi, a affirmé qu'après la visite du président iranien en Russie, une ambiance positive a été créée concernant les coopérations économiques irano-russes. De très bons accords ont été signés lors de cette visite. Le président Raisi a lancé une nouvelle ère dans les relations économiques Iran-Russie et a rassuré les Russes de la volonté de la République islamique d'Iran de coopérer avec la Russie. Rappelons que les Russes sont plus sérieux que par le passé pour avoir des relations et coopérations économiques avec l'Iran. Le haut parlementaire iranien a affirmé que des programmations pour le développement de ces coopérations comptent parmi les priorités des deux présidents lors de la future visite de Poutine en Iran. Le président de la Commission économique du Parlement iranien a également déclaré que lors de la récente réunion avec la présidente de la Banque centrale russe, des accords ont été signés dans le domaine des coopérations monétaires et bancaires pour pouvoir éliminer le dollar des transactions irano-russes. Le rouble et le rial seront désormais la base du commerce dans les transactions des deux pays. Le volume des échanges entre l'Iran et la Russie n'a cessé d'augmenter ces dernières années, mais ces 9 derniers mois, il vient de passer de 2 à 4 milliards de dollars, a-t-il encore noté. Soulignant que la création du corridor nord-sud est de nature à augmenter considérablement les revenus en devises de l'Iran, il a déclaré. Ce corridor permettra aux Russes d'accéder au Golfe Persique et à la mer d'Oman et d'exporter leurs produits vers les pays du Golfe Persique. L'une des clauses de nos récentes négociations à Moscou est la finalisation de la voie ferrée Rasht-Astara et il a été décidé que les Russes mettront pleinement en œuvre leurs engagements. La route Garmsar-Inchebron devrait être également achevée conformément aux accords conclus ces dernières années. Si la route Rasht-Astara est achevée, le corridor central iranien sera lancé. Depuis la route maritime d'Astara, nous pouvons atteindre les côtes de la Russie, qui est la rive la plus septentrionale de la mer Caspienne. La route terrestre de l'Iran sera également reliée à la Russie via l'Azerbaïdjan. Dans ce cas, le couloir occidental et central de l'Iran sera relié à la Russie. Le vice-président iranien pour la science et la technologie, Serena Sattari, et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de la République du Mali, Amadou Keïta, ont conclu lundi 11 juillet des accords pour développer la coopération dans les domaines technologiques et scientifiques. Lors d'une réunion à Téhéran, les deux parties ont exploré des voies pour élargir la coopération bilatérale dans les domaines de la science et de la technologie avec la participation d'entreprises fondées sur la connaissance. bénéficiant des ressources humaines expertes et les plus expérimentées dans les entreprises fondées sur la connaissance, l'Iran a été en mesure d'atteindre le développement de produits locaux, a déclaré Sorena Sattari, ajoutant que le pays a également réussi à jouer un rôle de premier plan dans le domaine de la nanobiotechnologie et l'industrie aérospatiale. Par conséquent, l'Iran est prêt à renforcer sa coopération avec le Mali dans les domaines de la science et de la technologie, a-t-il souligné. Ailleurs, dans ses remarques, Sorena Sattari a souligné la nécessité de soutien continu et indéfectible des gouvernements dans le domaine du développement des interactions technologiques avec d'autres pays et a déclaré que les gouvernements peuvent jouer le rôle de pont entre les activistes technologiques et renforcer les relations entre les entreprises fondées sur la connaissance et le savoir et les entreprises créatives des deux pays. Le responsable iranien a affirmé que l'Iran était prêt à organiser une exposition exclusive pour le Mali en Iran dans le domaine des équipements de laboratoire et d'agriculture. Pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de la République du Mali a décrit l'Iran comme un pays grand et important dans le domaine de la technologie, qui a obtenu de nombreuses réalisations dans les domaines de l'agriculture et de la santé. Amadou Keïta a souligné que les deux pays, l'Iran et le Mali, jouissent de capacités élevées pour élargir leur coopération scientifique, ajoutant que le Mali était prêt à envoyer ses étudiants pour poursuivre leurs études dans les centres universitaires en Iran. Les forces d'occupation américaines ont fait entrer ce mardi 12 juillet un convoi composé de 43 véhicules chargés d'équipements et de matériel logistique pour soutenir leurs forces dans les bases militaires illégales dans la région syrienne de Jazira. Des sources locales de la banlieue de Yaroubiya ont fait savoir à la correspondante de Sana qu'un convoi composé de 32 camions, véhicules et 11 camions citernes est entré en Syrie ce mardi matin via le poste illégal d'Al-Walid en provenance du nord de l'Irak. Dans le même contexte, un convoi appartenant aux forces d'occupation, composé de 20 véhicules, s'est dirigé la nuit dernière à partir de la base d'occupation dans l'aéroport de Kharab al-Jir vers la localité de Talamis, puis vers Asaké, selon les sources syriennes. Le président togolais Faure Gnassingbé et son homologue bissau-guinéen Oumaro Sissoko Embalo ont exprimé de vives préoccupations face à la recrudescence du terrorisme en Afrique de l'Ouest, selon un communiqué conjoint publié mardi 12 juillet à Kara, dans le nord du Togo. Élu à la tête de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Oumaro Sissoko Embalo a effectué une visite ce 12 juillet au Togo. Les deux chefs d'État ont exprimé leur vive préoccupation face à la recrudescence du terrorisme et ont invité à cet effet la communauté internationale à soutenir davantage les efforts que déploient les pays affectés face à ce fléau qui ne cesse de gagner du terrain, indique le communiqué. Au cours de leurs entretiens, les présidents togolais et bissau-guinéen ont discuté des relations bilatérales, de la situation en Afrique de l'Ouest et ont également abordé des questions internationales. Sur le plan international, les deux chefs d'État ont réaffirmé l'urgence d'une désescalade dans le conflit russo-ukrainien, dont les répercussions se font lourdement ressentir sur le continent africain, ajoute le communiqué. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Après la Belgique et la France, tentative italienne pour violer l'UCAS US. En déclenchant une confrontation hybride contre la Russie au sujet de l'Ukraine, les États-Unis et leurs alliés vacillent précairement au bord d'un conflit nucléaire. Et les tentatives de blâmer Moscou pour cela sont absolument inacceptables. Après avoir provoqué l'aggravation de la crise ukrainienne et déclenché une féroce confrontation hybride contre la Russie, Washington et ses alliés se balancent dangereusement au bord d'une confrontation militaire ouverte avec notre pays, ce qui signifie un conflit armé direct entre des puissances nucléaires. Il est évident qu'un tel affrontement serait lourd d'escalade nucléaire, a déclaré mardi 12 juillet la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Que devrait comprendre un Italien lambda de cette confirmation très claire d'un risque de conflit nucléaire Occident-Russie ? Qu'outre d'avoir à faire face aux conséquences militaires d'une guerre que les Yankees attisent de jour en jour, et ce en allant jusqu'à s'en prendre désormais et directement au territoire russe, la saison froide sera terriblement dure cette année. C'est sans doute sur base de ce constat que Rome, méga base de l'OTAN en Europe méridionale, a tenu à convier le ministre iranien des Affaires étrangères en Italie. Et ce, en se foutant royalement des dernières menaces de l'Américain Jack Sullivan, qui dit « avec l'Iran, c'est à prendre ou à laisser, sinon il risque l'isolement ». Le lundi 11 juillet, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a rencontré son homologue italien, Luigi Di Maio, à Rome, avec qui il s'est entretenu des développements bilatéraux, régionaux et internationaux. Au grand bonheur de l'Italien, l'Iranien a évoqué les relations séculaires entre Téhéran et Rome et les capacités réciproques à l'étendre, soulignant la nécessité pour les deux parties d'utiliser ces possibilités afin que les coopérations s'élargissent autant que possible, en particulier dans les domaines économiques et commerciaux. En Europe, c'est sur l'Italie qu'il se concentre notre effort de développement de liens, a-t-il lancé. Un peu plus tard, Amir Abdollahian a été invité vedette de la Chambre du commerce irano-italien où il a rappelé que le nucléaire et un accord, c'est bon. Mais l'Europe se devrait avant tout penser à la crise de COVID-19, à sa sécurité alimentaire et énergétique. Le ministre iranien ne l'a pas dit à haute voix, mais quand il a évoqué fièrement le corridor nord-sud qui, via le territoire iranien, transite des marchandises russes vers l'Inde, il l'a pensé. Que cet accord nucléaire de 2015, où l'Europe a joué sans pour la première fois après la guerre mondiale un rôle axial, Trump l'a bousillé, pétant pour porter atteinte à l'Iran, qui sait bien vivre avec les sanctions, mais contre cette même Europe politique, et qu'en fait, si en 2015, l'Europe y avait tenu tête et n'avait plus maintenant à courir comme des caniches derrière une Amérique guerrière qui la mène droit à un conflit militaire. Amir Abdollahian ne l'a dit pas à haute voix sans doute, pour la bonne et simple raison que l'Italie, en invitant l'Iran à se connecter à son marché, cherche à contourner les États-Unis et que la crainte du froid hivernal la pousse à penser au gaz et au pétrole iranien qui coule à flot et qui va droit dans les réservoirs de la Chine avec un prix ultra rentable de 10 dollars sous les prix du marché. Et cette manière de contourner l'Amérique est plutôt la bienvenue. Il y a quelques jours, la Belgique s'est engagée en faisant voter par son Parlement une loi autorisant un échange de prisonniers avec l'Iran. La France, dont le président, dans un excès de réalisme, a récemment reconnu que sans le pétrole et le gaz de l'Iran et du Venezuela, tout sera perdu, tente elle aussi à emprunter cette voie, à savoir agir, en sorte que l'embargo US, que le mécanisme anti-sanctions de l'Iran a réduit à néant, ne soit respecté que par les Américains eux-mêmes. Est-ce la revanche timide des vrais faux alliés d'une Amérique dont les politiques consistent à liquider politiquement, économiquement et militairement l'Europe ? Peut-être. Il n'en reste pas moins que le temps presse. En effet, en imposant de nouvelles sanctions contre la Russie en juin, les autorités canadiennes ont non seulement exacerbé la crise du gaz en Europe en raison de la réduction de la capacité du Nord Stream, mais aussi créé une crise de l'uranium. La semaine dernière, le département américain de l'énergie a demandé des offres pour jusqu'à 1 million de livres du 308 en lien avec l'intention du gouvernement de créer un stock stratégique d'uranium. Les quotas individuels iront de 50 000 à 100 000 livres du 300 et l'uranium doit provenir uniquement de producteurs américains locaux, a déclaré FN Arena dans un rapport hebdomadaire. Maintenant, la situation évolue rapidement, note Alexander Uvarov, le rédacteur en chef d'Atominfo. Alexander Uvarov explique aussi que le danger d'une telle dépendance vis-à-vis de la Russie est bien connu aux États-Unis, ainsi que le fait que les États-Unis souhaitent périodiquement restaurer leur propre production pour environ 20 ans. Mais les technologies d'enrichissement de l'uranium par centrifugation dont disposent la Russie et l'Europe, les États-Unis ne les ont jamais utilisées à des fins commerciales, poursuit Uvarov. Ils ne peuvent pas acheter cette technologie. Ils doivent donc soit la voler, soit la développer à partir de zéro. Tout ce qu'ils ont aujourd'hui, ce sont les installations du laboratoire expérimental Centrus. Il faudra au moins 5 à 10 ans pour développer à nouveau toute industrie, dit Uvarov. La Russie n'est en effet pas le plus grand producteur et exportateur d'uranium, mais sa part dans les services de conversion de l'uranium est d'un tiers et dans l'enrichissement, 40% du marché mondial. De plus, les exploitants de centrales nucléaires américaines reçoivent 20% de leur uranium enrichi de Russie. Il est vrai que les prix au comptant des services d'enrichissement d'uranium ont augmenté de 65% depuis le début de l'année. Et certes, les Européens iront connaître une nouvelle crise nucléaire qui s'ajoute à celle du gaz et de l'essence. L'hiver prochain s'annonce d'ores et déjà difficile pour l'Europe. Amir Abdullahian a raison. Que l'Europe se démène pour renouer avec l'Iran, d'intégrer le corridor naval anti-sanctions iranien qui, partant du golfe Persique, va à la Méditerranée orientale en passant par la mer Rouge et qui s'étend même jusqu'aux Caraïbes. Après tout, entre la Syrie d'une part et la Grèce et Chypre de l'autre, il n'y a que quelques centaines de kilomètres et les pétroliers iraniens pourront aussi se diriger vers les côtes grecques et chypriotes. Au diable l'Amérique, au diable l'accord nucléaire, et que l'Europe revienne à sa logique eurasiatique.